Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite l'émission Petite Consultation entre Amis.
Petite Consultation entre Amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déboussolé de Radio Campus Paris. Nous ne pouvions pas reprendre notre émission sans évidemment rendre hommage à l'ensemble des victimes de ce vendredi rouge sang qui restera marqué à jamais dans nos mémoires. Rendre également hommage à l'ensemble des professionnels et des secours qui ont été exemplaires tout au long de ces événements. Du coup, on s'est dit que le meilleur hommage qu'on pouvait leur rendre, c'était de continuer à sortir, à se marrer, à rire. Et là-dessus, rassurez-vous, on ne lâchera rien. Alors, comme toutes les semaines, on a remis notre blouse, on a remis notre casque et on a disséqué l'actualité pour vous concocter un sommaire aussi hétéroclite que complètement foutraque. On parle cette semaine de comment recycler vos médicaments et c'est là-dessus santé bonheur du docteur Julie, des infos qu'il faut avec le docteur Marion. La piqûre de rappel sera le 18 janvier 2007 où un génie des urnes a cru pouvoir guérir du sida, docteur Léo. Le mot du médecin, docteur Marion, c'est la potomanie, le pire du forum, les poux préfèrent-ils les roues et à revoir la berlue, c'est l'expression rigolote de la semaine. Et on finira, si on a le temps, par les temps attendus. Bref, de salle d'attente à vos stéthoscopes, la consultation peut enfin commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une très belle brochette, une brochette aussi nombreuse
que quoi d'ailleurs.
Dodu, oui, on peut dire dodu. On va pas parler pour vous, docteur Julie. Je vous en prie. Allez, vous avez reconnu.
Ça commence bien.
Vous avez reconnu la voix de docteur Léo. Salut, docteur Léo.
Salut.
Ça la va. Voix chaude et profonde et caverneuse de la médecine. La voix du docteur Julie.
Trop abusé.
Notre docteur dodu de Radio Campus Paris. Et enfin, à côté du docteur dodu, eh bien notre docteur tête de bois. Salut, Marion.
Salut, mais je reste du côté de Docteur Julie.
Donc les docteurs dodu sont sur la gauche. Et Docteur Adrien, vous êtes spécialiste de tout et surtout de rien.
Absolument, Docteur Loïc, bonsoir à tous.
Allez, quelle ambiance ce soir. Et on se fait, avant tout ça, on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'était l'une des infos de la dernière quinzaine qui nous a fait beaucoup rire, docteur Loïc.
Ah oui, mais d'un rire plutôt jaune, docteur Marion. Il y a 15 jours, Marisol Touraine a annoncé l'ouverture du don du sang aux homosexuels à partir du printemps 2016. On aurait pu croire à une avancée incroyable pour la médecine française, mais le seul souci, c'est que les donneurs gays devront respecter une période d'abstinence d'un an avant de proposer leur sang. Non, je vous assure, ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, ça n'a absolument plus rien de rigolo. Vous avez bien entendu un an sans relation sexuelle. Si l'on revient à un peu d'histoire, le don du sang était jusqu'alors interdit aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes depuis 1983. 1983, c'est le scandale du sang contaminé avec la contamination de plusieurs patients par le virus du sida ou de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine. En cause, les mesures de sécurité inexistantes ou inefficaces. Scandale qui éclaboussa les ministres Laurent Fabius, Edmond Hervé, le docteur Michel Garetta et sa grosse moustache.
Donc je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable.
Et vous l'avez reconnu, Georgina Dufoy, à l'époque ministre des Affaires Sociales et de la Santé, qui eut cette parole malheureuse devant Anne Sinclair. Pour rappel, 1983, l'OMS ne dénombrait que 92 cas de sida en France. Le seul souci, c'est qu'il a fallu, plus d'une année pour comprendre qu'il fallait chauffer les extraits de plasma pour inactiver le virus. Et pour couronner le tout, les capacités de traitement de la France étaient à l'époque insuffisantes et celle-ci refusa d'importer du sang de l'étranger, en particulier des États-Unis. Et c'est là que le bât blesse. Des produits non chauffés et donc contaminés seront donc distribués jusqu'en 1985. L'opinion publique n'est, elle, réellement alertée qu'à la mi-85 lorsque le Premier ministre annonce le dépistage obligatoire des donneurs de sang à partir du 1er août. À ce moment-là, 95% des hémophiles sont déjà contaminés. Bref, voilà pour la page historique et retour vers le futur et direction Marty 2015, nom de Zeus. Mais la vraie question est de savoir si cette période d'abstinence d'un an est-elle réellement justifiée. Du coup, on a un peu cherché et on est allé fouiner du côté de l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, et on est allé fouiner dans les chiffres des nouvelles contaminations du VIH en France. Et malheureusement, la mesure proposée par Marisol n'est pas complètement aberrante. En 2014, sur 7100 personnes ayant découvert leur séropositivité dans l'année, la proportion des personnes homosexuelles reste statistiquement bien plus haute que dans la population non contaminée, avec 2600 homosexuels contaminés, soit près de 43% des contaminations. Et du coup, scientifiquement, la prévalence du VIH est bien plus élevée dans les populations homosexuelles en France. En France, pour rappel, c'est 150 000 personnes qui vivent avec le VIH et parmi elles, près de 30 000 l'ignorent. Rappelons que le traitement précoce améliore considérablement l'espérance de vie des personnes séropositives et que ce traitement réduit aussi largement le risque de transmission en réduisant notamment la charge virale. Bon, alors tout ça n'est pas très joyeux à en croire vos mines déconfites, mais ce qu'il était bien plus à l'annonce de cette mesure, c'est l'avalanche de tweets qui a été déclenchée. Alors il y a de quoi se marrer, on a repris quelques tweets. Pour donner leur sang, les homosexuels devront au préalable avoir résolu le conflit israélo-palestinien. Ou encore, cherche compagnon patient avec qui jouer au Scrabble pendant un an pour accomplir acte citoyen. Des petites questions tweet également, si t'es bi, l'abstinence dure-t-elle 6 mois? Et puis, on baise? Pas cette année, j'ai donc du sang. Et le meilleur pour la fin, c'est le tweet de Benoît Galeret qui dit « On a fait un pas, mais il reste juste une dizaine de kilomètres. Espérons en tout cas qu'on les franchisse vite. » Et la bonne santé, c'est d'entendre votre voix, docteur Julie. Ça danse dans les studios. Ça danse. Et cette semaine, vous nous parlez de l'astuce santé-bonheur. Comment recycler nos médicaments?
Oui, alors c'est le coup classique. Nos médicaments finissent pour la plupart entassés dans l'armoire à pharmacie, souvent périmée. Mais alors, que faire? Les jeter? Surtout pas. Voici la marche à suivre. Première étape, je trie. Il faut savoir que chaque Français consomme l'équivalent de 114 € environ par an en médicaments, selon une étude de l'assurance maladie. 7 € de plus que les Suisses, 20 € de plus que les Espagnols et 2 fois plus que nos voisins britanniques. Il est bien rare que ces pilules, sirops et autres remèdes soient terminés ou périmés. Que faire alors de ces médicaments dont on n'a plus l'utilité? Avant tout, les trier. Ce ne sont pas des produits anodins, ils ne se jettent surtout pas à la poubelle. Pourquoi? Leurs substances actives ont tout simplement pour effet de polluer l'eau et les sols. Certaines traces de ces substances sont régulièrement retrouvées dans les stations d'épuration. De quoi dissuader de se débarrasser à nouveau des médicaments dans nos toilettes, notre évier ou notre poubelle. Et pourtant, nous sommes encore 27% à le faire. Il faut donc avant tout faire un tri entre les médicaments périmés et ceux que vous pouvez garder. Ceux qu'on a, je les rapporte. Une fois les médicaments dont vous souhaitez vous débarrasser sélectionnés, il suffit de les rapporter dans leur emballage, qu'ils soient périmés ou non, chez votre pharmacien. Cette mesure est d'ailleurs obligatoire depuis 2007. Mais alors, tous les médicaments peuvent-ils être rapportés? Eh bien non, les médicaments vétérinaires, les compléments alimentaires, les cosmétiques, les pansements ou même les seringues ne sont pas repris. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir ce que vous pouvez en faire. Chaque année, la moitié des médicaments est prise en charge par Cyclamed, qui est une association de défense de l'environnement, et cela ne cesse d'augmenter tous les ans. Ces médicaments sont ensuite incinérés et serviront comme producteurs d'énergie. Un bon point pour notre planète.
Merci, en plus on est bientôt, c'est bientôt la COP21, donc recyclez vos médicaments, ayez le réflexe Cyclamed. Alors quoi de neuf, docteur Marion? Quoi de neuf, docteur Marion? Des journées mondiales? Une journée mondiale.
Oui, on n'est pas très fournis cette semaine. Donc dans la semaine, vous aurez le 23, la journée internationale des aides-soignants. Alors c'est une journée qui est très peu connue, parce qu'effectivement, qui reste assez discrète. En réalité, elle existe depuis 2010 et il semblerait qu'elle ait été initiée à un moment par la profession elle-même. On n'a pas d'autres informations sur les origines.
Ça, c'est sympa du coup. C'est-à-dire que si on veut faire des journées mondiales, on se dit allez, hop.
Moi, je propose qu'on en trouve une pour la semaine prochaine. On va en inventer une.
C'est vrai.
On
bon, en tout cas, la journée internationale des aides-soignants, voilà. C'est le 23 novembre.
Tout à fait. Et en fait, elle avait reçu cette journée mondiale le soutien au moment de sa création de la ministre de la Santé de l'époque, qui était donc Roselyne Bachelot. Madame Roselyne Bachelot.
Exactement. Le docteur, même, on peut dire Roselyne Bachelot, qui est pharmacien.
Tout à fait.
Oui, 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 disons-le.
Tout à fait. Et effectivement, juste pour rappel, parce que c'est une profession qu'on pense invisible, en fait, enfin, tout au moins qui manque de reconnaissance, docteur Loïc, car sa proximité avec les malades n'en fait pas pour autant une profession écoutée. On retrouve souvent des phrases un peu au sein de la profession qui disent « Nous ne sommes que des aides-soignants, on ne nous écoute pas, les gens nous traitent de laveuses, de toiletteuses ou pire encore. » Et autres perles, voilà, relevées, qu'on peut relever effectivement dans cette profession. Pourtant, l'aide-soignante, osons le féminin, dans la mesure où l'aide-soignant est très souvent une aide-soignante.
Et c'est
oui,
vrai, les chiffres le disent.
Tout à fait. Est avant tout une profession de santé exerçant par délégation et sous l'autorité des infirmières des tâches essentielles dans la vie d'un hôpital et dans la vie des patients tout au long de leur séjour dans ces structures. En tout cas, il y a un site à visiter si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations là-dessus. C'est le site de l'Union française des aides-soignants, www.ufas.info.
Parfait, merci. Du coup, 23 novembre, la journée des aides-soignants, on le rappelle, un métier de proximité qui fait de la relation soignant-soigné une exception. Merci beaucoup. On écoute notre première page de musique et on écoute Sunday Morning du Velvet Underground. Dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Retour sur le plateau de Radio Campus Paris, on écoutait Sunday Morning du Velvet Underground.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux. C'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, vous nous parlez du jour où un idiot du village a cru pouvoir soigner ses corréligionnaires. Et ce fameux jour, c'était le 18 janvier 2007.
Voilà, effectivement. Et ce jour-là, un homme affirme avoir pu soigner les malades touchés par le sida. Alors forcément, avec une telle nouvelle, on est en droit de se demander ce qu'a fait le comité Nobel pour ne pas avoir récompensé un tel génie. Un homme qui revendique la guérison du sida, c'est quand même quelque chose. Alors, premier point déjà, notre idiot du village prétend soigner le sida et non pas éradiquer le VIH. Alors, petite note préalable, est toujours utile de rappeler la différence entre le VIH et le sida. Alors, VIH, ça désigne le virus, hein, c'est l'acronyme de virus d'immunodéficience humaine. Sida, en revanche, c'est syndrome d'immunodéficience acquise, désigne le stade avancé de la maladie de l'infection par le VIH. Mais revenons vite à notre génie.
Oui, c'est ça qui est un peu ça nous intéresse quand même, sida, VIH, etc. Mais revenons à ce génie.
Revenons à ce génie. Et avant de révéler son identité, attardons-nous quand même un peu sur la pratique du faiseur de miracles. Eh bien, quelle surprise, le rituel est en fait assez simple. Il suffit de quelques herbes médicinales, évidemment secrètes, des bananes, des cacahuètes, c'est une belle recette pour un gâteau, une bouteille d'eau toute sale, mais on peut noter l'effort de recyclage et surtout l'ingrédient essentiel des prières. Alors voilà, vous demandez au patient de respirer un bon coup, vous l'aspergez de votre mystérieuse potion sale, vous murmurez quelques mots et abracadabra, il est guéri.
Waouh, c'est bien, donc même pas besoin de boire la potion magique, juste d'asperger le patient.
On asperge.
Ah, c'est quand même pratique, on va fermer un bon nombre de services d'infectiologie.
C'est ça, ouais. Moi j'aimerais pas trop la boire, hein. Ça pas non plus. Bon, alors ça prête à sourire, mais il y a quand même un bémol à tout cela, et le problème en fait c'est l'identité et la fonction officielle de notre cher marabout. Car l'homme n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un vaudou du 18e arrondissement qui vous promet de ramener votre femme partie, ni même un guérisseur de Barbès qui vous propose des opérations chirurgicales à distance, mais bien Yahya Jammeh, soit le président en exercice et déjà depuis 21 ans de la Gambie.
Rien que ça, donc voilà. Rien que ça quand même, pas mal.
Qui cumule les fonctions, hein, du coup, médecin et président. Alors Yahya Jammeh a au moins la décence de prodiguer de façon gratuite son arnaque, au contraire de notre bon vieux guérisseur de Barbès qui lui est payable à distance via un tout petit Western Union au pays. En revanche, Yahya Jammeh refuse de partager son savoir, son pouvoir, hein, par principe, tout juste veut-il bien l'enseigner en Gambie. En revanche, ça n'empêche pas le pays de recevoir, et finalement encore heureux, l'aide et l'argent de programmes des différentes entités des Nations Unies pour lutter, pour de vrai cette fois, contre le VIH. Alors finalement, on pourrait presque se demander si cette situation est si surprenante. On parle tout de même d'un président venu au pouvoir par un coup d'état militaire, qui déclare que l'homosexualité est un comportement satanique. Donc a priori, pas de don du sang en vue pour les homosexuels en Gambie.
Après, en Gambie, ça paraît un peu compliqué, effectivement. Ça l'est déjà en France.
Voilà, donc en Gambie, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, donc Jammeh, c'est aussi un véritable prédateur de la liberté de la presse dans un pays où d'ailleurs la torture est une pratique plutôt généralisé dans les prisons. Alors voilà, la liste est longue, mais on souhaite quand même bien du courage au peuple gambien. Et en attendant ici, on attend justement avec impatience de faire une petite piqûre de rappel sur ce jour où le marabout rendra le pouvoir.
Exactement, et on l'invitera du coup avec, avec grand plaisir. Merci docteur Léo, et on retrouve tout de suite le docteur Marion pour le mot du médecin.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors, il paraît que vous êtes docteur, et surtout, quel est le mot du jour, docteur Marion ?
Potomanie, docteur Loïc, c'est la manie qu'on a d'avoir besoin de potes toujours autour de soi, un peu comme vous, non ?
Oui, exactement, mais alors je vois pas du tout le lien médical.
En effet, docteur Loïc, la blague n'était pas très drôle, je vous l'accorde. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Trop ma journée, je crois. Enfin bref, mais bon, la potomanie vient donc du grec poto, poto qui veut dire boisson. Et la potomanie, c'est donc le besoin pathologique de boire de grandes quantités. Je vois en même temps le docteur Loïc qui boit de l'eau,
je ne vois que des petites quantités.
Très bien. En tout cas, pour ceux qui auraient choisi le latin comme docteur Julie dans leurs études...
Julius.
On retrouve cet élément dans l'expression « eau potable ».
Ah oui, pas mal. Ah. Mais alors, bon, dans les faits, ça ressemble à quoi la potomanie ?
Alors la potomanie, c'est un trouble en fait, du comportement alimentaire qui se caractérise par le besoin permanent et difficilement maîtrisable de boire sans que ça soit nécessaire en soi pour le corps. Donc attention docteur Léo, je vous rappelle, ce trouble touche souvent les individus ayant un psychisme anormal. chip, névrose, psychose infantile, retard mental,
schizophrénie. On me vise comme
non,
ça directement.
C'est moche, c'est très moche ce que vous faites, docteur Marion. Continuez, par contre, s'il vous plaît. Continuez.
Voilà. Mais bon, c'est pas que des mots liés au psychisme anormal. Ça peut aussi être lié au diabète de type 1 ou de type 2 qui peuvent être la cause de cette potomanie. En tout cas, la potomanie est à l'origine du coup de la polyurie.
Qu'est-ce qu'on apprend comme nouveau mot, la polyurie, qui signifie
qui est la sécrétion d'urine en quantité abondante et donc de l'augmentation du volume urinaire au-delà en fait de 2500 millilitres par jour.
En gros, si vous pissez plus de 2,5 litres par jour, vous faites de la polyurie.
Voilà, tout
bon,
à
alors,
fait.
Bon, alors, est-ce qu'il y a quand même des risques quand on est entre guillemets potoman? Je sais pas si ça se dit, mais...
potoman.
Salut, t'es potoman? Oui, je suis potoman.
Je suis un peu potoman en ce moment. Enfin, le risque principal de l'habitude de consommer des grandes quantités d'eau peut quelquefois aboutir à une intoxication quand cette consommation dépasse 10 litres par jour. Cela entraîne une hydratation en fait trop importante des cellules, aboutissant à une diminution de la quantité de sel à l'intérieur du sang. Ceci crée des œdèmes au sein du cerveau, s'associant à l'apparition de troubles neurologiques parfois très sévères. Le comportement des patients d'ailleurs atteints de potomanie est généralement discret et susceptible de passer inaperçu par rapport par exemple aux individus qui absorbent de trop grandes quantités de nourriture type boulimie ou encore rapport aux patients anorexiques.
Voilà, mais en tout cas, merci docteur Marion, on n'a pas le temps. Je sais que vous aviez encore plein de choses à dire sur la potomanie, mais malheureusement, on a plein d'autres choses à voir. Bon, en tout cas, juste on retient la potomanie, on retient quoi du coup, docteur Marion?
Alors, que la potomanie ne doit pas être confondue, ça c'est important, avec la dipsomanie, cette tendance irrésistible et soudaine à boire de l'alcool, c'est autre chose. Et d'ailleurs, le docteur Julie, c'est la 10e fois que vous insistez pour qu'on aille boire un verre après l'émission, je vous garde à l'œil.
Potomanie qui signifie boire de l'eau, en tout cas trop d'eau en quantité importante. Merci docteur Marion et on enchaîne tout de suite avec notre expression rigolote.
O-D-I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Et l'expression rigolote, docteur Adrien, est avoir la berluche.
Exactement, docteur Loïc, avoir la berluche, ce qui veut dire se faire une fausse idée de quelque chose ou avoir des illusions.
Alors, d'où ça vient cette expression, docteur Adrien?
Alors, en fait, il faut savoir que l'étymologie du mot berluche elle-même est discutée. La meilleure hypothèse, c'est qu'elle remonterait au XIIIe siècle du verbe béluer, qui voulait dire éblouir, mais aussi tromper, duper.
Ah déjà, je vois qu'on commence à ne plus y voir du tout clair dans votre chronique.
Alors
docteur
justement,
Adrien.
On commence à y voir un peu plus clair, docteur Loïc.
Un peu plus clair, mais alors justement, alors donc revenons sur le sens de avoir la berluche.
Alors avoir la berluche, bah, comme je me disais, c'est se faire une fausse idée de quelque chose tout simplement. Le premier sens par contre de berluche, il s'appliquait à un discours un peu trompeur, un discours affabulateur. Voilà, par la suite, on a un petit peu oublié la pauvre berluche hein, qui s'est fait oublier bah, pendant assez longtemps puisqu'il faut attendre le 16e siècle pour retrouver le mot en médecine où là il désigne un défaut de la vue qui fait percevoir des objets imaginaires ou qui déforme la réalité. Et c'est en fait à partir de là que s'est formée au XVIIe siècle notre expression, avec l'idée d'impression visuelle trompeuse.
Alors ailleurs, avoir la berluche, on retrouve dans certains pays des expressions quasiment similaires.
Effectivement, docteur Loïc, on le retrouve par exemple dans quel pays?
Allez, on retrouve partout en Angleterre.
Allez, on y va en Angleterre. Donc en Angleterre, les Anglais diront « to get the wrong end of the stick ». Ce qui veut dire évidemment, comme vous l'auriez tous compris...
Avoir le mauvais bâton, le mauvais bout du bâton.
Alors tenir le mauvais bout du bâton, voilà. C'est-à-dire que comme on n'y voit rien, ben on prend le balai par la paille.
Ah oui, du coup, voilà, comme les bâtons d'aveugle. Allez, un peu plus dans le sud, en Espagne.
Alors en Espagne, ils aiment bien les pléonasmes, hein, monter en haut, descendre en bas, tout ça, puisque eux, ils nous disent voir des visions.
Voir des visions,
voilà.
Pas mal. Qui signe,
voilà.
Et donc en espagnol...
Ver vision.
Allez, vous le faites bien.
Ver visiones,
en Italie, on part en Italie
avec avere le travegole et celui-là il veut dire tout simplement avoir la berluche.
Eh ben, merci docteur Adrien en tout cas pour cette expression rigolote.
Quand je fais pipi c'est plus jaune que d'habitude.
Et alors, docteur Julie, vous êtes allé fouiner comme toutes les semaines sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine. En gros, les poux préfèrent-ils les roux?
Oui, c'est un message de Poil de K du 89 qui nous demande...
J'adore.
Qui nous dit... Bonjour, j'ai beaucoup de poux et je me demandais si ça pouvait venir de ma couleur de cheveux car je suis roux. Est-ce que les roux ont plus de poux que les autres? Déjà qu'au collège, on se moque de moi pour ça. J'ai honte des poux. En plus, je suis amoureux d'un copain qui joue à un jeu online avec moi. Et lui me dit que peut-être si je changeais ou je faisais une couleur, j'aurais plus de poux. Ensuite, on pourra sortir ensemble. Alors, que pensez-vous?
Merci, en tout cas, je ne sais pas où vous allez chercher ça, docteur Julie, j'imagine vos soirées, allez épier les forums de jeunes. Bon alors, vous répondez quoi à cette jeune auditrice?
Eh bien non, Poil de K du 89, tu fais fausse route comme beaucoup, halte aux idées reçues. Les poux aiment tout le monde et leur attirance n'a rien à voir avec la couleur des cheveux, des yeux ou de la peau. Ça ne vient ni de ta couleur de cheveux, ni de toi, et ceux qui te disent le contraire sont des trous du cul.
Oh bah carrément.
Voilà.
Bon alors allez, on revient un peu sur le traitement.
Mais alors non, plus sérieusement. Non, j'étais en colère quand même.
Vous êtes en colère.
Oui, voilà. Donc alors comment on se débarrasse des poux? Bon, il existe de nombreux traitements anti-poux commercialisés et la majorité d'entre eux a prouvé son efficacité. Ils ont tous le défaut d'être coûteux et non remboursés par la sécurité sociale. Les plus courants sont à base de permétrine ou de malathion. Quels que soient les produits utilisés, les règles d'utilisation sont toujours les mêmes. Donc, premier principe, la majorité des produits disponibles est très active sur les poux vivants, mais moins sur les lentes. De ce fait, il faut souvent refaire un nouveau traitement environ une semaine après pour tuer les quelques poux qui ont pu naître à partir des œufs avant qu'eux-mêmes n'aient le temps de pondre de nouveaux œufs. Deuxième principe, l'ensemble de ces produits locaux est plus actif sur des cheveux secs que sur des cheveux mouillés. Le fait de les appliquer sur des cheveux mouillés dilue le produit actif et le rend moins efficace. De plus, pour chaque produit, il faut suivre les méthodes d'application et les temps de contact préconisés par le fabricant. Troisième principe, on ne peut pas se passer d'une phase mécanique avec un peigne fin. Il faut essayer de retirer le maximum de parasites et de lentes. Cela est beaucoup plus facile quand on a les cheveux courts, bien sûr. Et enfin, cinquième principe, il faut surveiller les cheveux de tous les sujets en contact, en particulier dans la famille, et traiter au moindre doute.
Merci docteur Julie, on n'hésitera pas à se traiter contre les poux et aller aussi sur les forums internet. Allez, avant de conclure l'émission, on a le temps de faire quelques brèves de salles d'attente. Alors les brèves de salles d'attente, on part au Brésil. Si tout le monde se rapproche des micros, que se passe-t-il toutes les 2 minutes au Brésil pour les hommes?
Toutes les
2 minutes.
Une érection?
Non, c'est pas une érection. Non, j'étais sûr. Ce n'est pas une fellation. Alors, c'est plutôt médical quand même. Je vous rappelle qu'on est dans une émission médicale. Même si je sais que vous êtes un peu obnubilé
par ça.
Pas des changements de sexe. Ouais, toutes les 2 minutes.
Il y a beaucoup de Brésiliens.
Il y a beaucoup de Brésiliens, effectivement.
Une augmentation de taille du sexe.
C'est en lien avec une opération quand même.
Toutes les 2 minutes, une augmentation justement du pénis.
Non, pas une augmentation effectivement du...
d'anus.
Non, tout à fait. Soyons plus simples. Du coup, c'est une opération...
Ah, de chirurgie esthétique.
Oui, pas mal. Effectivement, toutes les 2 minutes au Brésil, a lieu une opération esthétique pour les hommes. Un article intéressant qui dit effectivement que comme on vit de plus en plus âgé, que les gens font de plus en plus d'opérations esthétiques. On part en France cette fois. Un boxeur qui protégerait quoi d'ailleurs justement? Un boxeur?
Ah, je sais.
Ah, vous savez déjà. Ne soufflez pas la réponse, ne dites rien. Un boxeur qui pourrait protéger. Donc un boxeur, on est d'accord, une sorte de caleçon un peu moulant.
Ah, des coups qui pourraient...
Non, qui pourrait... Non, c'est
non,
pas...
Une
non,
sorte
c'est...
de coquille.
Non, c'est pas une coquille. Non, tout à fait. Non, pas du tout. Absolument pas.
Ah, des... Non.
Alors, je vous aide un peu. Ça peut protéger... ça peut protéger notamment votre descendance, si vous êtes un homme.
Ah bah non, je sais pas alors.
Reviens dans le jeu.
On se retire.
Allez, docteur Adrien, reviens dans le jeu.
Ça protège les cocognettes.
Ça protège les cocognettes, oui, mais ça
les
protège
les
cocognettes contre certaines
contre
choses.
Contre la chaleur.
Pensez à ce que vous avez dans vos poches d'habitude.
Les
ondes, exactement, tout à fait. Bien joué, docteur Julie.
Merci.
Donc un boxer anti-ondes qui protège votre descendance. Et donc c'est tout simplement pour éviter les ondes émises par les téléphones portables glissés dans la poche ou les signaux Wi-Fi des bornes internet, des box internet. C'est Arthur Ménard et Pierre-Louis Boyer qui ont inventé ce boxeur avec des fils d'argent. Il coûte pas trop cher, il coûte une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est plutôt oui, alors pas un boxeur, mais c'est quand même un boxeur qui vous évite d'être d'être stérile.
Ça vaut le coup.
Ça vaut quand même le coup. Voilà, on va se s'arrêter là pour cette émission. Merci à tous, merci à tous les chroniqueurs. Rappelons évidemment que eh bien nous sommes podcastables sur le site www.radiocampusparis.org. Vous nous retrouvez la semaine prochaine 17h30 18h à la technique et à la réalisation. Il y avait ce soir Quentin. Juste après nous vous retrouvez L'œil à l'écoute. À 19h vous retrouvez Tropical Club. Ne lâchez pas l'écoute de Radio Campus Paris. Et puis on se dit à la semaine prochaine. On vous embrasse. On a le temps de faire des bisous. Bisous bisous. Allez ciao. Salut, à la semaine prochaine.
Il est 18h sur Radio Campus Paris.